allez écouter le reportage que nous avons diffusé dans Micro Rebelle Hebdo ce mardi. Il s'agissait d'une revue de presse en vue de la journée internationale contre les violences faites aux femmes qui a lieu chaque 25 novembre de chaque année depuis 1999. Et vous allez écouter une version longue de cette revue de presse car nous avons décidé d'y ajouter la chronique de deux articles. Bonne écoute! Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce reportage de Micro Rebelle Hebdo. Alors c'est un reportage un peu particulier puisqu'il s'agit d'une revue de presse. On a décidé de faire une revue de presse autour de la journée du 25 novembre qui est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors on va faire un petit retour historique sur cette journée internationale. Alors déjà la date, pourquoi le 25 novembre? C'est un hommage aux trois sœurs Mirabal qui ont été assassinées en République Dominicaine. Alors, ces sœurs Mirabal, brièvement, en fait, étaient des militantes opposées au régime de Rafael Trujillo, qui était le dictateur de la République Dominicaine de 1930 à 1961. Et le 25 novembre, ces trois sœurs sont assassinées. Et la République Dominicaine, quand elle est sortie de la dictature et entrée dans les Nations Unies, a voulu honorer ces femmes avec une journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, en 93, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté une déclaration sur la violence à l'égard des femmes. Et cette déclaration définit le terme de violence à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Et on a ça abouti, cette déclaration a abouti au 17 décembre 1999, date à laquelle l'Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 25 novembre comme la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Voilà, donc ça c'était le petit rappel historique de cette date. Et donc cette année, le 25 novembre est célébré. Et nous avons décidé donc de vous proposer une petite revue de presse avec des articles venant du monde diplomatique, de Manière de voir, qui est leur série bimensuelle, bimensuelle du monde diplomatique. Et donc on a décidé de vous proposer une revue de presse autour de cette journée, avec des articles venant du monde diplomatique, Manière de voir, qui est leur série du monde diplomatique, le journal écologique Silence, et le journal d'Alternative Libertaire qui propose dans son numéro de novembre tout un dossier sur les violences à l'égard des femmes. Voilà, j'espère que vous allez apprécier cette revue de presse. Pour nous, c'est nouveau comme fonctionnement. On a envie d'expérimenter quelque chose, donc on vous propose ça. J'espère que vous allez apprécier et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne écoute!
Oui, nous sommes en novembre, hein, novembre 2016, et le 25 novembre, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Donc un sujet évidemment extrêmement important. Et dans la presse, hein, dans Alternative Libertaire de ce mois de novembre, on a un dossier spécial, hein, un dossier avec 8 pages consacrées à cette question des violences faites aux femmes. Alors Alternative Libertaire, donc je vous rappelle que c'est un mensuel. Ce numéro spécial, il est en vente au prix de 4 euros et il est disponible au LAG, le lieu autogéré du bassin minier, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans ce numéro spécial Alternative Libertaire, hein, dont la couverture est consacrée à la thématique, hein. Je vous lis cette couverture. Battu, humilié, violé, la peur va changer de camp. Autrement dit, la thématique du dossier, hein, d'une manière générale, c'est il y a une situation inadmissible qui est faite aux femmes. Ceci étant, les femmes savent se prendre en charge et lutter. Et effectivement, la peur doit et va changer de camp. Alors le mot d'ordre de ce dossier, il est aussi tout à fait significatif, hein. Contre les violences faites aux femmes, abolir le patriarcat. Le premier article, un bel article dans ce dossier, concerne les violences conjugales. Et là, on ne parle pas seulement de la peur qui doit changer de camp, mais de la honte qui doit changer de camp. Hein. Autrement dit, dans les couples, hein, les femmes battues, les femmes victimes de violences connaissent souvent la honte, hein, culpabilisent elles-mêmes d'être victimes. Et la honte doit changer de camp, ça signifie que c'est effectivement l'agresseur, hein, l'homme, qui finalement doit ressentir cette honte. Alors, je vous lis juste un petit encadré de cet article. En bref, les violences conjugales ne proviennent pas d'histoires individuelles. Ce n'est pas parce que c'est lui, ce n'est pas parce que c'est elle. C'est parce que c'est un homme, c'est parce que c'est une femme. Posons-nous la question, à qui profite le crime ? À un système d'exploitation des femmes par les hommes. Ce système, c'est le patriarcat. Voilà, donc c'est un petit peu la thématique qui est développée dans cet article, avec peut-être une phrase significative. « Je ne veux pas être la femme de ta vie parce que je suis la femme de la mienne. » Bien, un autre dossier, hein, toujours sur ces questions de violence, ce sont les violences sexuelles. Alors les violences sexuelles, hein, avec deux angles d'attaque. Les violences exercées sous le prétexte de la sexualité des hommes. Le refrain, il est connu. Les hommes seraient, en quelque sorte, victimes, manipulés par leurs émotions, par leur libido. Et ils ne peuvent rien faire pour contenir cette émotion. Et donc, ça amène des violences sexuelles dont les hommes ne seraient pas responsables. Et ensuite, deuxième angle d'attaque, les violences exercées sur le sexe des femmes. Hein, bon, on peut parler de l'excision qui est quand même le plus connu, mais l'article aborde également l'excision mentale. Voilà, donc ça je vous laisse le découvrir, hein, l'article aborde ça de manière tout à fait intéressante et de manière tout à fait positive en matière de lutte. Dans cet article sur les violences sexuelles faites aux femmes, hein, il y a un encadré qui s'éloigne un peu de cette question là mais qui évoque 24 heures dans la vie d'une femme, autrement dit, tout ce qu'une femme peut subir, peut entendre comme vexation, comme remarque, tout au long de sa vie. Je vous en lis deux extraits. Lundi à 21h55, je sors de la piscine municipale. Dans le hall, un homme qui y travaille dit à son collègue, en m'examinant de haut en bas, « C'est toujours agréable de regarder les jolies filles. » À force, on se sent objet et nié dans sa qualité d'être pensant et agissant, ça me met en colère. Premier extrait. Et deuxième extrait. Mardi 18h50, j'accompagne les internes du collège où je travaille au self. Je me rends compte que j'ai oublié de ramener des plateaux qui traînaient. Je m'en excuse auprès du chef cuisinier que je rencontre pour la deuxième fois. « Je vais devoir vous donner la fessée », me répond-il en riant, au milieu du self et des élèves. Allusion déplacée à une pratique sexuelle ou infantilisation malsaine. Ce genre de réflexion est infériorisant, ça met en colère, etc., etc. Dans ce dossier d'Alternatives Libertaires. Un autre article dans ce dossier, hein, qui est vraiment très, très fourni et tout à fait intéressant, les violences au travail, à qui profite le crime ? Donc c'est un autre aspect de cette question des violences faites aux femmes, c'est dans le monde, dans la sphère économique. Alors je vous lis un petit peu le chapeau de cet article. Les violences au travail sont le lot de bien trop de salariés, eux, en souffrance, face à un chef qui abuse de sa position d'autorité. Mais, en plus des coups de pression, des chantages, des humiliations et des tentatives d'intimidation, les femmes doivent aussi faire face aux violences sexistes au travail. Celles-ci sont dans la continuité des violences faites aux femmes dans la société en général. Aucune raison pour que les patrons, chefs et sous-chefs, en général des hommes, laissent tranquilles les femmes dans cet environnement hautement oppressif qu'est le lieu de travail. Voilà, donc tout ça pour vous inviter à lire, à acheter cette belle revue. Je vais terminer un petit peu cette recension d'Alternatives Libertaires par des indications de ce magazine. Si vous êtes victime de violences sexistes au travail, vous pouvez contacter, premièrement, l'AVFT, l'association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, c'est une association de référence sur cette question. Elle réalise un rôle d'écoute, de soutien et d'accompagnement judiciaire des victimes qui les contactent. Elle s'inscrit également résolument dans le champ politique, portant des revendications féministes claires contre ces violences, donc l'AVFT. Et enfin, vous pouvez également contacter les syndicats. Une équipe syndicale combative et indépendante de la hiérarchie peut apporter son aide et réagir dans des situations de violence. Avant de vous confier, vérifiez toutefois que vous pouvez faire confiance à la personne à laquelle vous parlez. S'il n'y a aucune présence syndicale dans votre entreprise, vous pouvez contacter directement des organisations syndicales au niveau national qui se chargeront ensuite de vous mettre en lien avec la structure adaptée. Voilà, donc je vous rappelle, un dossier spécial d'Alternatives Libertaires, à 8 pages supplémentaires, 4 euros, et c'est disponible notamment au LAG, le lieu autogéré du bassin minier. Alors ce mois de novembre, c'est un numéro de silence qui est consacré à un dossier sur genre et éducation alternative. Donc ça n'est pas directement lié à la journée du 25 novembre, journée contre les violences faites aux femmes, mais plutôt aux questions éducatives. Alors ce dossier de silence, est composé essentiellement de deux articles de fond sur ces questions de l'éducation et du genre. Alors le premier article s'intitule « Agir au niveau de l'éducation ». Et ça aborde notamment les questions des manuels scolaires, enfin des ouvrages scolaires, ce qui se passe dans les cours de récréation, concernant cette question des garçons et des filles, ce qui se passe dans les cours eux-mêmes, dans les cours dispensés dans les écoles, la question des jouets, et notamment des jouets sexistes, et enfin le rôle des parents et des encadrants. Le deuxième article, lui, c'est plus un article sur les enjeux de la mixité à l'école, les enjeux pour l'égalité filles-garçons, avec notamment ce qu'apprennent les élèves, donc les contenus. On revient sur les manuels scolaires, et enfin un aspect souvent peu abordé, l'espace sonore de la classe et ses implications sur cette question d'égalité filles-garçons dans les écoles. Alors donc c'est un numéro de silence, celui de novembre 2016. Il est en vente au prix de 4,60€ et il est également disponible au LAG, le lieu autogéré du bassin minier.
Devojka je momku žalost učinila, devojka je momku žalost učinila.
Alors, on continue la revue de presse consacrée ce mois-ci à la question des violences faites aux femmes, donc la journée du 25 novembre, et avec plusieurs articles qui sont dans Manière de voir, leur série du monde diplomatique. Alors, le premier article dont je voudrais vous parler s'intitule Black Lives Matter, le renouveau militant par Sylvie Laurent. Alors, Sylvie Laurent, c'est une enseignante à Sciences Po qui a notamment écrit en 2015 une autobiographie de Martin Luther King, disponible au Seuil. Et Black Lives Matter, c'est un mouvement qui est né aux États-Unis en 2013. Un mouvement pour lutter contre les violences faites aux personnes afro-américaines. Alors pourquoi je vous parle de ce mouvement alors qu'on est dans un dossier sur les violences faites aux femmes ? Eh bien parce que l'article de Sylvie Laurent met en lumière plusieurs choses sur ce mouvement. Déjà, c'est un mouvement qui est jeune, il date de 2013. Il se fera surtout connaître en 2014 lors du meurtre de Michael Brown. Alors, pour mémoire, Michael Brown, c'était un adolescent afro-américain qui a été tué par la police à Ferguson en 2014. Donc Ferguson, c'est une ville dans le Missouri. Et ce mouvement, Black Lives Matter, va plus loin en fait que les simples répressions policières contre les personnes noires et les personnes de couleur. D'après l'article de Sylvie Laurent, donc, ce mouvement a été fondé par une femme, Alicia Garza, avec deux de ses amies, Patty Sculors et Opal Tometi. Donc c'est trois femmes qui sont à l'origine de ce mouvement. Et en fait, ce mouvement Black Lives Matter a comme intérêt déjà de ne pas se revendiquer comme le réceptacle de l'affliction noire, hein, c'est ce que dit dans son article Sylvie Laurent, mais aborde des questions beaucoup plus larges, comme la question du patriarcat, la question de l'impérialisme et l'exploitation économique. Donc ce sont des thèmes transversaux aux violences faites aux personnes afro-américaines, et on retrouve des liens avec, en France, les mouvements féministes contre le patriarcat. Et ce mouvement est aussi intéressant dans les milieux, dans les groupes sociaux où il intervient. D'après l'article de Sylvie Laurent, Black Lives Matter intervient auprès des prostituées, des homosexuels, des transgenres, des prisonniers, des clandestins. Donc beaucoup d'opprimés, alors bien sûr de couleur, qui le payent au prix fort puisqu'ils sont sous la double peine de la couleur et alors pour les transgenres, les homosexuels, la question du genre qui ne passe pas. Donc ça, ce sont des thèmes qu'on retrouve dans les questions féministes à l'heure actuelle. Le planning familial fait beaucoup de choses là-dessus, le mouvement LGBT bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de cet article qui est assez intéressant pour voir que, au-delà d'un mouvement militant sur la question raciale, s'est greffé de la volonté des fondatrices et de militants de BLM, donc Black Lives Matter, s'est dressé cette volonté d'aller plus loin que la simple question raciale et de prendre plusieurs questions sociétales, notamment féministes, pour lutter contre ces violences. Voilà, donc c'est dans le Manière de voir de ces deux mois, donc octobre-novembre, Manière de voir, le numéro 149. Et puis un autre article qui est dans cette hors-série. Et cet autre article s'intitule « Feu sur l'avortement », écrit par Jessica Gourdon, qui est journaliste. Et Jessica Gourdon, dans son article « Feu sur l'avortement », met en lumière en fait la question de l'avortement aux États-Unis. Alors bien sûr, les États-Unis ont ratifié l'accès à l'IVG, donc l'interruption volontaire de grossesse, mais ce que montre Jessica Gourdon, c'est que déjà, elle rappelle bien sûr que les États-Unis ce sont des États fédéraux, donc chaque État a son droit sur la législation, et on remarque en fait que plusieurs États, à l'heure actuelle, sont en train, non pas d'interdire l'IVG, mais de faire voter des petits décrets qui entravent un peu plus chaque jour l'accès à l'IVG. Elle met par exemple en question, elle cite par exemple que 24 États à l'heure actuelle demandent des autorisations parentales des deux parents, et non pas que d'un seul, ce qui est commun dans la loi américaine. Le Mississippi par exemple, le Dakota du Nord. Il y a aussi une dizaine d'États qui ont rendu les échographies obligatoires avant de pratiquer l'IVG. Et dans le Wisconsin et en Louisiane, le praticien qui va faire l'IVG est tenu de présenter l'image à la patiente et de la décrire. Donc vous voyez, c'est quand même des choses assez violentes. Mais son article va plus loin. Elle prend en exemple l'État du Mississippi. Donc l'État du Mississippi, c'est un des États, l'État le plus pauvre aux États-Unis. Et il y a un phénomène assez étrange et inquiétant qui est en train de se passer. C'est par exemple la clinique de Jackson où on peut faire l'IVG. En fait, la ville de Jackson a fait voter une convention qui est obligatoire pour ces cliniques avec, avec un hôpital, l'hôpital le plus proche, pour la prise en charge de la patiente si l'IVG se passe mal. Alors, si l'IVG se passe mal, l'hôpital le plus proche est obligé de prendre, de prendre en charge la patiente. Mais cette convention, en fait, elle force les cliniques à la voter. Et si ces cliniques n'ont pas ces conventions de signer entre les hôpitaux et les cliniques, eh ben, la clinique peut être incriminée d'un point de vue judiciaire et être fermée. Eh ben, c'est ce qui se passe avec la clinique de Jackson, en fait, qui s'est vu refuser les conventions avec tous les hôpitaux qu'elle a contactés. Alors, la journaliste, donc Jessica Gourdon, cite les paroles de Madame Derzy, qui travaille dans cette clinique. Aucun hôpital n'a accepté, pour des raisons idéologiques, par peur ou parce que certains de nos médecins ne sont pas résidents du Mississippi. Ces conventions n'ont rien à voir avec la sécurité de la procédure. De toute façon, les hôpitaux ne peuvent pas refuser nos patientes si une hospitalisation se justifie. Les législateurs savaient parfaitement que cela nous mettrait en péril. Voilà, en fait, c'est ce qui se passe. C'est que comme cette clinique de Jackson n'a pas les conventions de signer avec un hôpital, eh ben, elle est mise en demeure d'un point de vue juridique, elle est menacée de fermeture. Et c'est un peu ce qui se passe en fait à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est que de plus en plus, il y a un mouvement qui est en train de se passer d'un point de vue législatif, donc c'est très insidieux, pour pas interdire l'IVG, mais pour le bloquer, pour le rendre inaccessible. Alors ça va aussi un peu plus loin, ça va aussi sur des batailles municipales par exemple. La journaliste cite le Washington Post qui relate en fait la bataille juridique de la clinique de Fairfax qui a fermé en l'été 2013 suite à une bataille avec le conseil municipal de la ville de Fairfax, donc parce que ce conseil refusait l'aménagement dans de nouveaux locaux pour être en conformité avec une loi qui a été votée par l'État de Virginie en 2011. Donc voilà, donc cet article, il est feu sur l'avortement, est très intéressant parce qu'en fait, ça met en lumière que le mouvement pro-life aux États-Unis ne se limite plus à des manifestations de rue ou à des blocages physiques de la porte d'entrée des cliniques pour les patientes, mais maintenant, le combat se passe d'un point de vue législatif avec plein de petites mesures, plein de petits décrets qui sont invisibles et qui ont pour but de freiner l'accessibilité à l'IVG. Donc c'est un article qui s'appelle Feu sur l'avortement, que vous pouvez retrouver donc dans Manière de voir d'octobre-novembre 2016, écrit par Jessica Gourdon. Et c'est Manière de voir, c'est le hors-série du monde diplomatique. Alors, pour terminer cette revue de presse spéciale violences faites aux femmes de la journée du 25 novembre, je voudrais vous parler d'un article qui se trouve dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci. Un article écrit par Florence Boger, qui est l'envoyée spéciale aux États-Unis du Monde diplomatique. C'est une journaliste. Son article s'appelle « Toutes les Américaines ne s'appellent pas Hillary Clinton ». Et en fait, cette journaliste est allée à la rencontre de plusieurs femmes américaines qui sont au travail, qui ont eu un enfant et qui se sont aperçues que l'exception américaine, pour les femmes qui ont un enfant, l'exception américaine, c'est pas de congé maternité payé.
Donc les États-Unis font partie des 4 pays qui ne garantissent pas le congé de maternité payé. Les 3 autres sont le Swaziland, le Lesotho et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On s'aperçoit donc que ces millennials, donc c'est la génération du millénaire, donc ces femmes de 16 à 36 ans, ont beaucoup d'entraves à être mère et à travailler aux États-Unis. Il y a très peu de places, voire pas du tout en crèche publique, donc les jardins d'enfants privés sont extrêmement chers. Elle cite par exemple le cas d'Anna Allen, qui est une New-Yorkaise qui travaille dans une organisation non gouvernementale, qui est une mère célibataire d'une fillette de 3 ans. Elle paye 2100 euros par mois pour faire garder son enfant. Parce que l'accès aux crèches publiques est très compliqué et que les jardins d'enfants, comme je vous l'ai dit, sont extrêmement chers, puisque ces jardins d'enfants sont privés. Alors pour comprendre ces blocages et ces difficultés qu'ont ces mères et ces femmes plus largement aux États-Unis, la journaliste cite les propos de Virginia Valien, qui est une professeure de psychologie à New York, et qui explique qu'une des raisons en fait viendrait en fait de la mentalité américaine, tout simplement, qui est qu'il n'y a pas d'interférence des pouvoirs publics dans la vie privée. Donc les États-Unis ont une mentalité très individualiste, c'est un système qui est basé là-dessus, c'est la réussite individuelle, hein, le self-made man. Mais on voit bien que pour les questions familiales, ce système n'est pas du tout adapté. Il y a aussi la question de l'inégalité d'accès aux soins, à la santé. Elle cite le chiffre, cette journaliste, donc Florence Bauger, les chiffres de l'organisation Black Women's Roundtable, qui parle des décès des femmes suite à leur grossesse ou pendant leur accouchement. Le chiffre aujourd'hui s'élève à 42,8 pour 100 000 naissances, alors que ce chiffre descend à 9,6 en France et 4 en Suède. Donc on voit bien que le système américain, à travers l'article de cette journaliste, crée de graves inégalités sur la question féminine. La journaliste va plus loin et parle notamment de l'égalité des sexes. Donc, elle cite par exemple, alors à l'heure actuelle, le Congrès ne compte que 19% de femmes. La quasi-totalité des postes de gouverneurs sont tenus par des hommes, 44 sur 50. Et même chose pour les maires, avec seulement 18,8% de femmes qui sont à la tête des villes de plus de 30 000 habitants. Donc il y a un réel problème sur cette question-là. Dans les représentations aussi, dans les mentalités, c'est pas encore le cas. Il semble y avoir une certaine acceptation de l'homosexualité et des transgenres aux États-Unis, il est encore difficile pour beaucoup d'entre eux de se promener par exemple main dans la main, comme le résume Gina Mercurio, donc, qui est citée dans l'article, qui est propriétaire de la seule librairie féministe de la ville de Toledo. Mais la journaliste tente d'être optimiste, et justement, si j'ai dévié sur la question du genre, c'est parce que la journaliste l'aborde, et elle termine en fait son article sur la citation d'une professeure d'études de genre de la ville de Toledo, qui explique que dans sa classe, en début d'année, donc déjà elle, cette professeure, a constaté qu'il y avait une augmentation des hommes, enfin des garçons, à étudier ces questions-là à l'université. Mais la raison pour laquelle il y a une augmentation des garçons dans ces filières sur l'étude des genres, son explication est intéressante, je la cite, hein, cette professeure, qui s'appelle Asma Halim. Cette matière à la côte, de plus en plus de jeunes hommes suivent ces cours car ils sont conscients que c'est un atout pour travailler à l'étranger ou dans une ONG. Donc il y a un intérêt économique derrière cet intérêt masculin pour les questions de genre, donc on n'est pas encore sur un véritable militantisme.
Mais la journaliste reste optimiste sur l'évolution des mentalités, mais cette mentalité, bien sûr, a changé et est très longue. Donc voilà, donc c'est un article vraiment intéressant qui met en lumière beaucoup de questions qui semblent passer un peu à la trappe à l'heure actuelle sur les élections américaines, notamment de la part de Hillary Clinton, qui s'est présentée un peu comme le modèle pour les femmes, mais elle s'est présentée suite aux propos complètement misogynes de Donald Trump. Mais la journaliste montre qu'il y a quand même derrière une certaine réalité d'inégalité assez flagrante. Donc voilà, donc c'est l'article « Toutes les Américaines ne s'appellent pas Hillary Clinton » par Florence Bauger dans Le Monde diplomatique de novembre 2016. La musique que vous avez pu écouter pendant cette revue de presse sont des morceaux tirés de l'album Panix du groupe Panix. C'est un groupe qui propose une petite réactualisation de la musique des Balkans. Voilà, vous pouvez retrouver ce groupe, donc Panix, sur le site Free Music Archive. Eh bien, la revue de presse est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu apprécier cette revue d'articles. Alors provenant, je rappelle, donc du Monde diplomatique, deux articles de Manière de voir, qui est leur série du Monde diplomatique, un dossier du journal d'Alternative Libertaire, donc c'est le numéro de novembre, qui consacre tout un dossier à la violence à l'égard des femmes, et enfin un dossier un peu plus général, proposé dans le numéro de novembre du magazine Silence. Voilà, nous vous disons, l'équipe Micro-Rebelle vous dit à la semaine prochaine pour un prochain numéro de Micro-Rebelle Hebdo. Vous pouvez réécouter ce numéro sur notre site internet, hein, www.micro-rebelle.fr. Vous avez les podcasts et sur notre site internet, vous pouvez aussi écouter toutes nos autres émissions. Voilà, je vous dis à mardi prochain pour un prochain numéro de Micro-Rebelle Hebdo. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine.